Voilà, rebonjour à tous. Alors, j'ai pas eu l'occasion de me présenter. Je m'appelle donc Ephraim Goldschmidt. J'ai une petite question. Qui était dans cette église avant 2009? Ok. Ok, il y a quand même du monde. Qui se rappelle avoir vu des enfants jouer dehors dans la cour? Ok, d'accord. Dans ce cas, il se peut que vous m'ayez croisé. C'est vrai que je suis pas venu beaucoup au culte le dimanche matin ici, mais par contre j'ai sûrement joué dans cette cour et j'ai été dans cet endroit plus que beaucoup de personnes dans la salle. J'ai grandi en fait dans la maison qui est juste à côté, qui a été détruite il y a quelques années. Donc mes parents s'appellent Daniel et Marianne Goldschmidt, et puis voilà. Donc j'ai grandi juste à côté et puis j'ai beaucoup joué dehors avec les enfants de Jean-Marc notamment, Jean-Marc et Jocelyne. D'ailleurs, il n'est pas là aujourd'hui, mais sinon, je lui aurais présenté mes excuses pour toutes les fois où ils sont rentrés tard le soir et où ils répondaient pas, parce que fallait bien qu'on finisse notre jeu, quoi. Mais voilà, ils ont bien grandi apparemment. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. C'est du coup très spécial pour moi. Vous êtes mes voisins en quelque sorte, quoi. Et voilà. Mais je suis pas venu pour vous parler de ma vie, je suis venu pour vous parler de ça. Les déchets. Nos déchets. Ils font partie de nos vies. On n'imaginerait pas vivre sans déchets. Par exemple, si je vous demande comme ça spontanément, quand est-ce que vous sortez vos déchets? Vous me répondez du tac au tac.
Jeudi soir.
Jeudi soir. Lundi soir. Normalement, tout le monde a la réponse tout de suite, quoi. Peut-être vous l'avez dans votre tête. Moi, c'est le lundi et le jeudi, par exemple. Voilà. Ça fait partie de nos vies, finalement, et c'est comme si on avait toujours vécu avec. De nos jours, un Français a environ 350 kilos de déchets ménagers par an. Chaque seconde, sont produits en France pas loin de 28 tonnes de déchets. Autrement dit, la France produit 868 millions de tonnes de déchets par an. Là, on inclut toutes les entreprises, etc. La question, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça? Et c'est intéressant à ce niveau-là d'écouter nos aînés, et notamment des personnes qui ont vécu à la campagne. Je discutais avec ma grand-mère et je voyais que en fait cette logique, c'était une logique complètement différente. C'était pas sortir les poubelles le lundi et le jeudi. Non, il y avait quelque chose d'autre. C'était en fait tout se récupérait. Elle réutilisait les papiers journaux qui servaient alors à faire des emballages pour d'autres choses, ou bien ça servait pour le feu. Les aliments étaient donnés aux cochons ou bien aux poules. Pour emmener et vendre son beurre au marché, mon arrière-grand-mère, par exemple, l'emballait dans des feuilles de choux. Donc, en fait, tout se récupérait. Les déchets, c'est une invention humaine et assez récente qui s'est développée principalement en ville. Par exemple, la poubelle a été inventée par Eugène Poubelle à Paris. À la fin du 19e siècle, c'était pour répondre à un problème sanitaire. Les déchets s'accumulaient et puis il y avait des problèmes d'hygiène, quoi, tout simplement. Mais si, avant le 19e siècle, les êtres humains vivaient sans poubelles, sans déchets, et si les êtres humains ont toujours utilisé la récup, c'est peut-être que notre monde est fait pour la récup. En tout cas, quand on observe la nature, c'est vrai que c'est ce qu'on observe. Vous connaissez toutes peut-être la phrase de Lavoisier, « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». On voit effectivement que dans la nature, les déchets ne sont jamais vraiment des déchets. Même les excrétions d'un animal vont servir de nourriture à un autre animal. Les feuilles mortes, par exemple, vont servir de nourriture pour la terre. Les choses apparemment mortes, inutiles, auront toujours une fonction et une utilité. Pensez par exemple à ce que vous avez dans votre assiette. Tout est mort. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé un poisson vivant ou des légumes qui sont encore en train de germer et de pousser dans votre assiette. Non, tout est mort. Les légumes que vous mangez ont été arrachés, ils ont perdu la vie, ils ont été mis dans votre assiette pour vous donner la vie, pour vous donner à manger. La mort d'un être vivant pour la vie d'un autre être vivant. Et ce mécanisme de mort et de résurrection, on le retrouve partout. On le retrouve par exemple aussi dans notre corps. Est-ce que vous savez que chaque seconde, on a des milliers de cellules qui meurent dans notre corps pour être tout de suite remplacées par d'autres milliers de cellules? Et c'est comme ça que, par exemple, alors pour un individu adulte, on va avoir une toute nouvelle peau à peu près tous les mois. Voilà. Donc la prochaine fois que vous voyez quelqu'un, un ami que vous n'avez pas vu depuis un mois, vous ne pourrez pas lui dire « toi, t'as pas changé ». Ce processus nous renouvelle constamment et fait de nous des nouvelles créatures. On va maintenant observer un sketch des Like Lovers qui fait partie du spectacle que vous pourrez voir le 5 mai. Un sketch qui parle justement de déchets.
Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « celui-là traîne des casseroles du passé ». Si on y réfléchit, ces casseroles, ça peut être le résultat de ce que les autres peuvent nous faire ou bien nous dire. Et dans une vie, on en accumule. Des casseroles, des marmites, des poêles ou toute autre sorte de déchets hein, qui nous donnent l'impression que notre cœur ressemble plus à une poubelle qu'à autre chose. Et ça commence dès notre enfance.
Salut.
Salut, ça va ?
Ouais, super, on va construire une cabane dans les arbres.
Oh, trop chouette ! J'ai toujours voulu construire une cabane dans les arbres.
Par contre, avec les autres, on a décidé que tu pourrais pas venir.
Pourquoi ?
Bah,
allez, dis-moi, pourquoi ?
Parce qu'avec toi, la cabane, elle va s'écrouler.
Pourquoi tu dis ça ?
T'es grosse.
Non. Mm-mm. En fait, je suis pas grosse, c'est ma maman, elle dit je suis à croquer.
Les pommes sont à croquer. Toi, t'es grosse ?
Non, non plus. En fait, ma maman, elle dit, c'est pas, j'ai les os lourds.
Non, les dinosaures, ils ont les os lourds. Toi, t'es juste grosse. Bon, je dois y aller. Salut.
Vous avez déjà entendu l'expression « la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe » ? Eh bien, c'est un des plus gros mensonges que j'ai jamais entendu. Les mots peuvent faire mal. Et alors que la vie continue, nos déchets s'accumulent. Parfois, cela peut aussi provenir de personnes qui nous aiment tendrement, mais qui ne réalisent pas que leurs paroles peuvent nous faire très mal.
Alors,
salut,
qu'est-ce
papa.
Qui s'est passé ?
J'étais stressée et trop, et du coup, j'arrivais pas à me concentrer.
Tu n'arrivais pas à te concentrer, hein. Est-ce que tu as conscience que c'est à cause de cet examen que tu n'iras pas en première S ? Stressée. Combien d'heures est-ce que j'ai passé tous les soirs à te faire réviser tes maths ? Tu réalises ça, hein ? C'était pas compliqué pourtant.
Mais papa, ça va, je me suis ratée, ça arrive.
Oui, ça arrive, bien sûr. Hey, tu pleures ?
Non.
Arrête de pleurer, on nous regarde. Bon, maintenant tu prends tes affaires et on y va.
Non mais papa, j'étais stressée.
Je suis déçue de toi, ok ? Prends tes affaires et rejoins-moi dans la voiture.
Les parents. Ils n'ont pas l'intention de nous blesser. Hein. C'est juste qu'ils ont leurs propres déchets. Et ces déchets, ils peuvent nous les transmettre. Et lorsqu'on a accumulé tous ces déchets, on n'est plus très bien... Ça nous pèse et on a alors tendance à vouloir s'en débarrasser sur quelqu'un d'autre.
Salut Frangine, je voulais te demander...
Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre ?
Je voulais juste te poser une question.
Quoi ?
Tu pourrais m'emmener au lycée avec ta voiture? Il fait froid et j'ai pas envie d'y aller en vélo.
Ok. Tu veux que je t'emmène au lycée avec ma voiture?
Bah oui, vu que tu y vas de toute façon, je me suis dit que tu pourrais...
Ok. Je vais t'expliquer une petite chose. C'est pas parce qu'on va dans le même lycée que toi et moi, on va commencer à traîner ensemble. Les gens, quand ils te regardent, ils te trouvent bizarre. Et s'ils apprennent que t'es mon petit frère, ils vont aussi me trouver bizarre. Alors que t'ailles au lycée, à pied, à vélo ou en rampant, je m'en fiche, ok? Je suis pas ton chauffeur.
Et c'est pas ma faute si papa est parti. Pourquoi tu t'acharnes comme ça sur moi?
Mais ça n'a rien à voir.
Bah si, et tu sais que j'ai raison.
Ok, ça va. Je suis désolée.
Je vais prendre mon vélo.
Non mais, attends, je t'ai dit que j'étais désolée.
Je vais prendre mon vélo.
Et voilà. Alors qu'on essaye de se décharger de nos déchets sur quelqu'un d'autre, on en prend plus. Mais vous savez quoi? La vérité, c'est que nous n'avons pas besoin des autres pour nous charger plus. Ah, nous le faisons très bien tout seuls. Lorsque nous nous comparons à d'autres et que nous pensons « je ne serai jamais aussi belle qu'elle » ou encore « impossible, je ne serai jamais aussi populaire que lui ». Et lorsque ces pensées nous trottent dans la tête, nous prenons encore plus de déchets. À cela s'ajoutent les autres déchets de la vie. Une maladie, la perte d'un emploi, le décès d'un proche. Et lorsqu'on a accumulé tous ces déchets, on finit par se percevoir soi-même comme un vieux tas de déchets. On se croit inutile, bon à jeter, ne servant plus à rien. Et c'est comme ça que je vis. Regardez, j'arrive à peine à garder l'équilibre, j'arrive à peine à avancer. Mais moi, j'en peux plus du tout. Pourtant, Jésus, je me rappelle de tes paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos. Mais moi, c'est ça que je veux. Oui, Seigneur, c'est vraiment ça que je veux. Jésus, je t'en supplie, est-ce que tu pourrais prendre ces déchets pour moi? Ils sont bien trop lourds pour moi. Jésus, je t'en supplie, prends-les.
Recycler. Créer aujourd'hui pour demain à partir d'hier, c'est ça sa spécialité. Il fraye des chemins à partir des errances. Il fait bourgeonner ce qui vient de faner. Il fait renaître ce qui vient de mourir. Ta vie te paraît sale. Tu ne sais pas quoi faire de tous tes déchets. Laisse Dieu les recycler. C'est en recyclant de la poussière qu'il t'a fait toi. C'est en recyclant ta vie qu'il te relèvera.
La Bible est remplie d'histoires, de gens dont les vies ont été récupérés par Dieu. De gens dont les vies étaient pleines de déchets, que Dieu a voulu récupérer et qu'il a réutilisé pour faire quelque chose de beau. Joseph, Moïse, David, le peuple d'Israël, beaucoup, beaucoup de fois. Mais aussi dans l'Évangile, Zachée, Matthieu, le fils prodigue, Paul, l'apôtre Paul, s'inscrit dans la lignée de ces personnages qu'on voit dans la Bible, avec qui Dieu a fait de la récup. Et je vous propose de lire ce qu'il nous dit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 14. Nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Paul sait ce qu'il dit quand il parle d'être une nouvelle créature. Sa vie était pleine de déchets. Il a persécuté, il a tué. Mais le moment où Dieu a choisi de le récupérer a été brusque, a été soudain sur la route de Damas. Dans ce texte, Paul parle de l'irruption de la nouvelle création dans le monde présent, au travers de la mort et de la résurrection de Jésus. Celui qui est uni au Christ fait l'expérience d'une réconciliation, d'un nouveau type de relation avec Dieu et avec les autres. Paul dit que c'est la mort du Christ qui inaugure tout ça. Alors j'ai une petite question, est-ce que certains parmi vous portent une croix sur eux? Vous pouvez lever la main? Ouais. 1, 2, 3, 4, ok. Je vois que vous avez aussi une croix dans votre église qui est magnifique, qui je pense remplace la croix qui était sur le mur, c'est ça? Comment vous pensez que les gens réagiraient s'ils venaient dans votre église et qui voyait une guillotine? Comment vous pensez que les gens y trouveraient si vous aviez un collier en forme de chaise électrique? La croix était un outil d'exécution, beaucoup utilisé par l'Empire romain, dans les premiers siècles de notre ère. C'était un outil d'exécution qui était réservé pour ceux qui ne sont pas citoyens romains et qui ne reconnaissaient pas la seigneurie de César, et qui par là défiait l'empereur. En fait, le but de la croix, c'était d'avoir quelque chose qui soit public, de vraiment montrer à tout le monde, voilà ce qu'il en coûte de défier l'empereur. De manière à ce qu'un maximum de gens puissent voir. Pour les premiers chrétiens, Dieu était présent dans un homme agonisant sur une croix, dans un homme passant par les pires souffrances. Il était présent dans cet homme parce que 3 jours plus tard, il est ressuscité. Ce qui venait témoigner à tout le monde que la mort n'aura pas le dernier mot. En fait, c'est au milieu de la plus grande souffrance, de la croix, que Dieu fait de la récup, transformant une ancienne créature en une nouvelle, nous faisant renaître, nous faisant ressusciter. Et je cite Rob Bell, c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est ce que Jésus fait. Mort et résurrection. Vieille vie pour nouvelle vie. L'une s'éteint, l'autre émerge. Vendredi, puis dimanche. On a fait Vendredi Saint et Pâques récemment. Tu meurs et tu renais. C'est comme ça. Par sa mort et sa résurrection, Jésus incarne l'œuvre de récup que Dieu souhaite faire dans la vie de chacune et chacun. Dieu veut faire de la récup dans ta vie et dans ma vie, comme on l'a vu avec cette pièce de théâtre. Mais l'évangile ne s'arrête pas là. La Bible parle d'un Dieu qui a un projet bien plus grand, un projet de récup qui n'inclut pas seulement nous en tant qu'individus, toi, moi, mais aussi l'humanité dans son ensemble, et même plus grand, la création dans son ensemble. Je discutais une fois avec quelqu'un sur notre appel à prendre soin de la planète. Notre appel parce que, voilà, pour moi, j'avais l'impression de voir que Dieu nous a responsabilisés au travers dans le texte de la Genèse et quand même ce qu'on fait aujourd'hui subir à notre environnement, à notre planète, il y a quand même un petit problème. Et à un moment de la conversation, cette personne m'a regardé et m'a dit « Moi, de toute façon, je pars du principe que tout va être détruit, que tout va être détruit. » Alors, je ne savais pas quoi répondre, pour le coup. Ça m'a travaillé toute la soirée. Et je me suis dit, finalement, j'ai essayé de comprendre son raisonnement. Et en fait, le raisonnement, c'était de se dire, bah, ouais, effectivement, vu que tout va être détruit, parce qu'elle croyait, du coup, que Dieu va tout détruire par le feu, que par rapport à ça, ben, du coup, il n'y a pas de raison de prendre soin de quelque chose qui va être détruit. Voilà. D'où l'importance de se poser la question. La Bible dit-elle vraiment ça ? Est-ce que tout va être détruit par Dieu ? Alors, les questions sur la fin des temps, c'est des questions compliquées. Ça suscite encore beaucoup de débats, et j'ai envie de commencer par dire simplement que, voilà, je vais aborder ces questions-là, mais en vous disant bien que ce que je vous partage, c'est une position, qu'il y en aurait d'autres de possibles, et que j'ai pas envie que certains soient offensés si vous partagez pas forcément cette position. Voilà, moi simplement, j'essaye de voir et de lire ce qui me semble se rapprocher le plus des textes et de l'intention de l'auteur dans ce qu'il a voulu transmettre. En fait, le discours de cet ami qui disait que la terre va être détruite par le feu se basait sur un passage qui est dans 2 Pierre et qui utilise effectivement un vocabulaire de destruction par le feu. Alors malheureusement, ce matin, on n'aura pas l'occasion de se pencher sur ce texte. Mais c'est vrai que quand on le lit, et je vous encourage à le faire, ça donne l'impression que Dieu a envie d'éradiquer, de faire table rase de tout pour reconstruire quelque chose de neuf. C'est un passage en fait qui semble mettre l'accent sur la discontinuité entre notre monde, là où on est actuellement, et le monde à venir. Discontinuité. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps de se pencher, comme je vous le dis, mais si vous le faites, je vous encourage à aussi vous pencher dessus en lisant aussi des commentaires à côté qui prennent en considération l'arrière-plan juif des lecteurs de Pierre. Et en fait, on se rend compte, quand on voit ça, que les images qui sont utilisées, donc le feu, etc., ça avait une connotation pour les juifs de l'époque. Le feu, ça fait référence, par exemple, au feu du fondeur, qui est là pour purifier. Donc c'est dans un texte de Malachie, il me semble, qui fait référence au feu du fondeur, et qui est là bien plus pour purifier que pour détruire. Voilà, il y a aussi d'autres aspects. Il y a un parallèle sur les eaux du déluge et puis le feu. Et en fait, les eaux du déluge ne sont pas venues éradiquer tout. Elles sont venues aussi purifier. Donc en fait, au final, on voit, au fur et à mesure, quand on considère l'arrière-plan, que ce texte fait plus référence à un jugement purificateur qu'à un jugement destructeur. Alors, peut-être, voilà, les avis divergent sur la lecture de ce passage, mais en tout cas, là où je pense tout le monde sera d'accord, c'est de dire que, dans la Bible, à côté de ce passage qui met l'accent sur la discontinuité, il y a un grand nombre de passages qui mettent l'accent sur la continuité. Sur quelque chose qui est de l'ordre de la transformation progressive. On est toujours en train de parler de notre monde actuel vers le monde à venir. Il y a par exemple 1 Corinthiens 15, où les paraboles de Jésus qui prennent l'image de la graine qui devient un arbre, continuité. L'idée que les corps ressuscitent, ça c'est dans 1 Corinthiens 15 du coup, continuité. Dans Apocalypse 20, il y a l'idée de la ville qui descend du ciel sur la terre, continuité. Matthieu 19, verset 28, Jésus mentionne la régénération de toutes choses. pour moi, la régénération, c'est la récup. Et il y a un autre texte que je vous invite à lire, qui se trouve dans Romains, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 22. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Car la création a été soumise au pouvoir de la fragilité. Cela ne s'est pas produit de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de la puissance de corruption qui l'a servie pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. La création actuelle est comme une maman qui donne naissance. Alors, une maman qui donne naissance, c'est une image qui ne va peut-être pas parler à la moitié des personnes dans la salle, mais pour celles, pour le coup, qui l'ont expérimenté, vous pouvez sûrement nous témoigner que ce n'est pas de tout repos et que c'est accompagné de vives souffrances. La création actuelle, c'est donc comme une femme qui donne naissance, qui souffre. Et peut-être ça explique les souffrances qu'on a l'impression de voir autour de nous. Mais qui donne naissance à un nouveau-né. Et ce nouveau-né, c'est la nouvelle création. Continuité. Une maman, un nouveau-né. Une dernière remarque. En plus des textes que nous avons vus, qui mettent l'accent sur la continuité, il y a aussi un mot qu'on utilise beaucoup parce qu'il est aussi beaucoup présent dans la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament, c'est le mot « nouveau ». Nouvelle terre, nouvelle Jérusalem, nouveaux cieux, nouvelle création, nouvelle créature. Ça a été mentionné par quelqu'un, je crois, dans une prière avant de nous faire neuf, nouveau. Alors, pour comprendre ce terme, dans la Bible, il y a deux mots qui sont utilisés pour traduire, donc le Nouveau Testament est en grec, et il y a deux mots grecs qui sont utilisés pour traduire nouveau, il y a néos et il y a kainos. Néos, c'est quelque chose qui fait référence, qui suppose quelque chose, un renouvellement total, quelque chose d'entièrement neuf. Et de l'autre côté, il y a kainos, qui, lui, fait plus référence à quelque chose de l'ordre du renouvellement, de la restauration. Alors, pour le comprendre, bien, une petite image. J'ai un pantalon, et voilà, je suis en train de faire du sport, de la danse, quelque chose, je le trouve. Voilà. J'ai deux possibilités avec ce pantalon. Soit je le jette aux ordures, et j'en rachète un nouveau chez H&M, soit je le répare, je le rafistole. Alors, dans le premier cas, j'aurais acheté un nouveau pantalon. Dans le deuxième cas, j'aurais donné une nouvelle vie à mon pantalon. Le premier cas, c'est néos. Le deuxième cas, c'est kainos. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir en fait que le Nouveau Testament, quand il parle de la nouvelle création, de la nouvelle vie, il utilise toujours le deuxième, kainos. Un peu comme dans le passage qu'on a lu avant, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues kainos. Dieu est clairement plus dans le rafistolage. Il aime le kainos. Il veut rafistoler nos vies trouées et déchirées, nos vies sales où on croule sous le poids des déchets. Il veut rafistoler aussi ce monde que l'on a détruit, ce monde qu'il a lui-même déclaré très bon quand il l'a créé et dont il nous avait demandé de prendre soin. Il veut le faire et il est en train de le faire, qu'on le veuille ou non. Dieu est en train de rafistoler notre monde. Mais vous savez quoi, la chose incroyable, c'est qu'il nous propose de l'aider. Il nous invite tous à participer à cette grande œuvre de restauration, de rafistolage, de récup, de réparation des dégâts de la chute, des dégâts qu'on a causés. Donc il lance un grand appel à volontaires. Il le lance, c'est un appel qui est adressé aux politiques, à M. Macron, M. Trump, mais pas que. C'est aussi un appel pour nous, pour chacun d'entre nous, dans nos styles de vie, faire participer à cette grande œuvre de récup, essayer de réparer finalement les conséquences de cette création qui a été tellement dégradée. Alors, je ne me fais pas d'illusions, ce n'est pas une simple prédication qui va changer radicalement votre vie, mais je crois que pour tout changement, il y a un premier pas. Et peut-être, ouais, pourquoi ne pas faire un petit pas et prendre une décision vers un style de vie qui soit plus en phase avec le Dieu de la récup, qui soit plus éco-responsable. Je ne sais pas, ça peut être quelque chose au niveau alimentaire, de faire limiter la consommation de viande. Alors là, on a tous des rythmes différents. Il y en a certains qui vont l'éradiquer, il y en a d'autres une fois par semaine, deux, trois fois. C'est pas grave, chacun son rythme. Ça peut être de faire un pas vers le zéro déchet, par exemple, en emportant ses sacs, tout simplement, quand on va faire les courses. Ça peut être voilà, d'éviter les emballages, ça peut être d'essayer de diminuer les dépenses d'énergie. Alors vous me direz, l'hiver est derrière nous, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres des énergies avec la voiture, avec plein d'autres choses. Chacun, et vraiment, je ne vais pas vous donner de recettes et vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Je crois que c'est à chacun de se positionner. Mais simplement, est-ce que Dieu ne voudrait pas nous interpeller et nous dire comment est-ce qu'on pourrait se sentir plus responsable de cette création que quand je l'ai créée, je l'ai voulu bonne et vous l'avez détruite et voilà quoi. Mes amis, que le Dieu de grâce et de paix vous fasse kainos. Comme cette peau, vous savez, qui meurt et qui tous les mois et qui se renouvelle. Que là où vous avez besoin de mourir, vous puissiez mourir pour revivre là où vous avez besoin de revivre. Que nous soyons récupérés pour pouvoir récupérer à notre tour. Que votre Église de la Bonne Nouvelle de Mulhouse puisse être témoin de ce Dieu qui n'a pas dit son dernier mot avec les déchets du monde. Que les Light Clubbers, et Joie et Vie, l'association qui porte les Light Clubbers, on a à cœur aussi, au travers des séjours et des projets qui sont proposés, d'incarner ce Dieu à l'œuvre pour recycler et restaurer notre monde. En fait, que tous ensemble, BN de Mulhouse, Light Clubbers, chrétiens, d'Alsace, d'ailleurs, nous puissions prendre part à cette grande œuvre de récup. Amen. J'ai simplement une dernière slide pour vous montrer quelques sources, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport à cette prédication.